Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, on est ensemble jusqu'à 11h. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Geneviève Méric, Ivy Paolo-Antonacci, Marianne Chassor, Tristan Grenassian et Géraldine Mosna-Savoie. Elle est mise en musique cette semaine par Philippe Baudouin à la réalisation, avec aujourd'hui la prise de son Alexandre Dang. À 10h50, vous retrouverez comme tous les jours François Nudelman pour le journal de la philosophie. François qui recevra aujourd'hui Ruedi Imbar, qui viendra vous parler de Maître Eckhart. Que signifie dire quelque chose? Quelles sont les conditions auxquelles ce que nous disons fait sens? Et comment s'assurer que les mots signifient ce que nous voulons exprimer? Suite aujourd'hui de notre semaine consacrée à Ludwig Wittgenstein, à arpenter le territoire du langage, le compas de la logique dans une main, la boussole de nos usages dans l'autre. Après avoir évoqué l'activité philosophique de Wittgenstein dans un sens biographique et intellectuel hier lundi, demain, nous réfléchirons au langage à partir de ses usages, des contextes dans lesquels nos phrases font sens et de ce qu'elles nous disent du monde, en compagnie du philosophe Vincent Descombes qui viendra vous parler des recherches philosophiques. Jeudi, c'est Jocelyn Benoît qui viendra nous montrer en quel sens, chez Wittgenstein, le doute présuppose toujours la certitude comme point de départ nécessaire de notre pensée et de notre action dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est du Tractatus Logico-Philosophicus que nous allons parler, le seul ouvrage écrit par Wittgenstein avec la volonté de le publier. Rédigé en partie au front pendant la première Guerre mondiale, le TLP propose sous forme d'aphorismes ordonnés de manière hiérarchique et logique, de symboles mathématiques et de schémas, une philosophie que l'on pourrait nommer négative, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas tant à saisir la réalité du monde qu'à délimiter ce que nous pouvons en dire à travers les règles logiques à l'œuvre dans le langage. Pour parler de ce drôle d'objet au nom barbare, deux philosophes. Avec nous en studio, Jérôme Sacure, co-auteur du vocabulaire de Wittgenstein, paru chez Ellipse, et en duplex depuis Clermont-Ferrand, Sébastien Gandon, auteur de Logique et langage, étude sur le premier Wittgenstein, paru chez Vrin en 2002.
Qu'est-ce que c'est? C'est un homme! Il est mort?
Non, capitaine! Il écrit!
Répétez! Il écrit dans un calepin!
Non, cet homme n'était pas fou. Il travaillait au milieu des sifflements de balles parce qu'il ne pouvait pas attendre. Le contenu de ce calepin était trop important pour remettre son écriture à plus tard. Il devait suivre ce que son esprit lui dictait. Il ne pouvait pas perdre une seule seconde. Qu'est-ce qui était si important pour qu'il risque ainsi sa vie? Qu'écrivait-il qui puisse l'empêcher de se lever et de partir en courant comme tout homme l'aurait fait? Le Tractatus Logico-Philosophicus. C'est l'ouvrage philosophique majeur du XXe siècle. Ce soldat se nommait Ludwig Wittgenstein. Cet homme a établi les limites de la pensée. L'énigme qu'il tentait de résoudre était la suivante. Peut-on connaître la vérité? Au cours de l'histoire, tous les grands penseurs ont cherché une certitude, un énoncé que personne ne puisse réfuter, tel que 2 plus 2 font 4. Pour atteindre cette vérité, Wittgenstein s'est appuyé sur la logique mathématique. Quel meilleur moyen pour obtenir une certitude qu'un langage immuable libéré des passions humaines? Il a avancé lentement, progressant équation après équation, d'une manière irréprochable jusqu'à atteindre une terrifiante conclusion. Il n'existe aucune certitude, quelle qu'elle soit, en dehors des mathématiques. Il n'y a aucun moyen de découvrir une quelconque vérité absolue, aucun argument irréfutable qui puisse aider à répondre aux questions de l'humanité. En conséquence, la philosophie est morte. Parce que sur ce dont on ne peut pas parler, Il convient de conserver le silence.
Bonjour Jérôme Sacur.
Bonjour.
Bonjour Sébastien Gandon. Sébastien Gandon, m'entendez-vous ?
Oui, je vous entends.
Voilà, vous êtes en duplex avec nous, depuis Clermont-Ferrand. Jérôme Sacur, vous êtes en studio aujourd'hui, donc c'est avec tous les deux que nous allons parler du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. On l'a entendu dans l'extrait de film qui a ouvert cette émission, c'était l'extrait de Crime à Oxford, un film de Alex de la Iglesia, qui était sorti en 2008, avec la voix française de John Hurt que nous avons entendu, où donc il décrivait ce soldat qui était Wittgenstein et qui notait sur un calepin les notes qui allaient donner lieu au Tractatus ensuite pendant la Première Guerre mondiale. Et dans cette présentation un peu approximative et un peu qui essaye de très emphatique, il dit que la question centrale que se pose Wittgenstein est celle de savoir si l'on peut connaître la vérité. Est-ce que c'est vraiment le souci qui guide Wittgenstein dans sa rédaction du Tractatus, Jérôme Sacur ?
C'est un peu... Non, je dirais pas ça comme ça. Je pense que l'un des soucis principaux de Wittgenstein, c'est pas tellement est-ce qu'on peut connaître la vérité, mais plutôt comment peut-on s'exprimer correctement ? Et c'est assez différent parce que la vérité, après, elle dépend un petit peu de ce qu'on cherche à exprimer. Il y a des vérités en logique, il y a des vérités en science, il y a des vérités en politique, dans n'importe quel autre domaine. Et la question de Wittgenstein n'est pas de trouver une vérité parmi tous ces domaines qui s'imposerait et qui permettrait d'en déduire d'autres ou d'être une sorte de point d'appui absolument certain. L'objet du Tractatus, il me semble, personnellement, c'est beaucoup plus la question de l'expression. Et donc, quel que soit le type de proposition qu'on cherche à formuler, quelles sont les conditions qui nous permettent de l'exprimer de la manière la plus correcte et surtout avec conscience des limites à notre propre expression. Donc, ne pas croire qu'on puisse transférer un mode d'expression dans un autre et garder le même type de forme de vérification d'un domaine dans un autre. Tout ça, c'est des questions qui, en fait, ne sont pas liées à la recherche d'une vérité, de la recherche de la vérité elle-même. C'est comment dire correctement ce qu'on cherche à dire.
Et donc, le critère de la vérité se retrouve au sein du Tractatus et dans l'entreprise de Wittgenstein, on essaie d'établir les règles logiques du langage. Dans le critère, vous l'avez dit peut-être, de vérification. Il s'agit de vérifier si ce que l'on dit correspond à la réalité en tant que telle.
Je dirais, il n'y a pas vraiment... C'est assez étonnant, je trouve, mais... Chez Wittgenstein, dans le Tractatus, et il reprend ça sans doute de Russell, il n'y a pas vraiment de théorie de la vérité. Il n'y a pas de tentation d'essayer de définir ce que devrait être un discours vrai. Il y a essentiellement... puisque la vérité et la fausseté sont totalement incluses déjà dans le principe même de ce que c'est qu'une proposition. Le Tractatus est a priori d'abord une théorie de la proposition. Et la proposition peut être... ce que dit Wittgenstein, elle est bipolaire. Elle contient sa vérité et sa fausseté. C'est-à-dire qu'elle indique ce qui est vrai si elle est... Ce qui est le cas si elle est vraie et ce qui est le cas si elle est fausse. Donc, en fait, la vérité est comprise d'emblée dans la notion de proposition et il n'y a pas ensuite de réflexion sur ce que c'est que une théorie cohérentiste ou une théorie vérificationniste de la vérité. Disons que la vérité, c'est un a priori de l'expression elle-même. Si nous nous exprimons, c'est parce que nous cherchons à dire la vérité. Et ça, c'est après la question du Tractatus se pose, c'est comment devons-nous nous exprimer ?
Alors, comment devons-nous nous exprimer, Sébastien Gandon ? C'est effectivement la question qui se pose. Et dans cette question-là, s'entend, il me semble, les trois grandes interprétations que l'on peut faire du Tractatus. D'abord, le lire comme étant un livre sur la philosophie du langage, avec cette proposition, cette thèse de Wittgenstein, la proposition est une image de la réalité. Ensuite, deuxièmement, un livre comme de philosophie logique, et ensuite un livre d'éthique. Langage, logique et éthique, les trois sont liés, les trois sont sans doute indissociables, puisque selon la façon dont on va réfléchir au langage en tant que tel, de l'en faire primer plutôt l'analyse logique ou la dimension éthique, la dimension éthique qui échappe même au domaine de la logique. Et c'est ça qui rend la lecture de cet ouvrage difficile, puisque si on dépasse la difficulté proprement formelle du livre, il est composé de propositions avec des numéros qui se suivent, donc qui est très éclaté. On peut ouvrir le livre à n'importe quel endroit et lire une proposition qui fait sens en elle-même, mais son sens réel ne découle que de la façon dont elle renvoie aux autres propositions. Donc à cette difficulté formelle vient s'ajouter cet entrelacement des problématiques au sein du Tractatus, Sébastien Gandon.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que Il y a plusieurs dans cet objet qu'est le tractatus, il y a plusieurs dimensions et on ne sait pas toujours très bien comment elles sont enchevêtrées les unes aux autres et c'est la difficulté du livre. C'est aussi ce qui a donné lieu à de multiples interprétations. Concernant la dimension éthique, je pense quand même qu'il faut insister sur le fait qu'elle n'est pas présente partout dans le livre. Elle est surtout liée au thème de l'inexpressibilité, qui est aussi un thème logique. Et la question de l'éthique arrive plutôt à la fin du bouquin. Elle est aussi ce questionnement éthique arrive aussi assez tard dans les carnets, finalement. Hein, autour de 1915, 1916, on voit que la question de la mort, du courage, des questions proprement religieuses apparaissent. Et je pense qu'il faut quand même là, comme l'extrait l'a montré, pointer vers l'expérience très difficile de la guerre que Wittgenstein fait. Donc, si vous voulez, moi, sur les trois points que vous avez donnés, hein, philosophie du langage, philosophie de logique et philosophie de la logique et éthique, je mettrais quand même éthique un petit peu de côté, parce que justement, toute cette question de l'éthique dans le tractatus, moi en tout cas, me fait problème, et je trouve que Wittgenstein n'en dit pas assez finalement pour qu'on... On sait que c'est important, mais il est extrêmement difficile, en tout cas en ce qui me concerne, de comprendre ce qu'il veut dire par là.
Bah, il n'en dit pas assez, et pour cause, puisqu'il dit précisément que tout ce qui peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut pas parler, il faut garder le silence. Et l'éthique, par définition, et ça il le montre quand même dans le tractatus, est ce dont on ne peut pas parler. Donc il s'agit d'une réflexion sur le langage, vidée de toute considération éthique à proprement parler.
Oui, il y a toute une question d'interprétation sur le statut du non-sens dans le tractatus, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un domaine dont on ne peut pas parler ou est-ce que le non-sens est véritablement simplement du non-sens, du charabia, et pour Wittgenstein, cette question est vraiment réapparue ces derniers 20 ans. Quand même, je pense que le centre de gravité du tractatus, c'est quand même dans ce lien entre les deux dimensions, les deux premières dimensions que vous avez soulignées, philosophie du langage et philosophie de la logique. Savoir qu'il y a quand même, un lien très fort entre les deux. C'est-à-dire que ce qu'a dit Jérôme est très juste sur l'expression. Wittgenstein est peut-être le premier philosophe à avoir lié la réflexion sur la logique avec une réflexion sur l'expression, sur la représentation, sur l'image, sur la proposition. Avant lui, ce n'était pas le cas. Ni Frege ni Russell pensent que la logique est liée au langage. On peut faire une théorie de la logique chez Russell et chez Frege sans parler du langage. On peut faire une théorie du vrai et du faux chez Frege et Russell sans parler du langage, sans parler de l'expression. Wittgenstein est le premier, d'une certaine façon, à avoir amené l'expression, la proposition, dans une réflexion sur la proposition comme image du monde, dans une réflexion sur la logique. Alors, donc ça me paraît très, très nouveau et très important.
Jérôme Sacur, est-ce qu'on peut dire pour autant que le langage, tel qu'il est analysé par Wittgenstein dans le tractatus, se réduit à la logique ? Est-ce qu'il ne fait qu'appliquer les règles de la logique qui appartiennent au domaine scientifique au langage et ce faisant, épuise la réalité même du langage ? Le langage est logique, la logique est un langage.
Alors, juste, est-ce que je peux revenir sur ce que disait Sébastien, avec qui je suis totalement d'accord, sur le fait que, pour répondre à la précédente question, sur le fait que, en fait, la partie négative du tractatus sur l'éthique et le mystique est extrêmement courte et extrêmement pauvre, alors qu'il y a un vrai, véritable contenu analytique dans le corps du texte. Et bien sûr, c'est toujours tentant de pouvoir tout relire, l'ensemble du texte avec les dernières propositions qui parlent de l'indicible, etc. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier le travail positif qui est fait dans le cœur. Et c'est vrai, je suis totalement d'accord avec Sébastien, que c'est pour ça que les trois aspects sont totalement déséquilibrés et que logique et langage sont complètement liés. Alors, maintenant, pour en revenir à la question précise que vous me posiez sur le langage et la logique, les choses ne se posent pas exactement comme ça, à mon avis, pour Wittgenstein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans le tractatus, et ça, c'est très difficile à voir, je crois, l'idée que la logique serait une doctrine, une science, une. Ça, c'est un peu l'idée qu'avaient Russell et Frege, avec l'idée que, déjà, on pourrait discuter ça chez Russell, sans doute. Mais disons quand même qu'il y a une sorte, dans les Principia Mathematica, qui est le gros ouvrage de Whitehead et Russell, paru en 1910-1913, qui est le terreau dans lequel le Tractatus pousse, il y a quand même, disons, un langage logique systématique, plus ou moins. Dans le Tractatus, en un sens, justement, ce que veut montrer Wittgenstein, c'est qu'on a besoin de différents modes d'expression selon le genre de choses dont on veut parler. Ce qui fait qu'à chaque fois, on peut trouver l'épure des règles dont on a besoin, mais en fait, il n'est pas certain que ça constitue un système unique. Et c'est une chose sur laquelle il faut, à mon avis, insister. En fait, il y a des essais de différents petits systèmes, des directions dans lesquelles on pourrait aller dans le Tractatus. Et c'est l'une des critiques principales qui fait contre ses prédécesseurs, Frege et Russell, qui, eux, voulaient une sorte de système englobant, de leur dire, non, en fait, il n'y a pas une logique. Si vous voulez parler des nombres, en fait, il faut plutôt ce genre de logique-là. Et ça aura donné ensuite, dans les années 20 et 30, ce qu'on a appelé le lambda-calcul et ce genre de choses qui insistent sur la notion d'opération. Si vous voulez parler de la généralité, alors oui, ce que vous avez découvert sur la quantification est fondamental. Et c'est ce mode d'expression qu'il faut avoir. Mais il n'y a pas vraiment... Donc, on peut dire que tout ce qui se dit de manière logique, parce que si on parle correctement, il faut avoir conscience des règles qu'on emploie et du symbolisme qu'on emploie, mais ça ne revient pas à dire que tout doit se mouler dans le cadre d'une langue universelle.
Que serait la logique ?
Voilà.
Mais alors, du coup, que fait-il au sein du Tractatus de ce reste, de cette dimension-là du langage qui n'est pas épuisée par la logique ?
Mais celle-là, effectivement, il la remet à la fin, dans les dernières pages, les dernières propositions. Il dit il y a un reste. Il y a un reste dont je ne traiterai pas ici, qui est extrêmement important, qui est peut-être l'éthique, le mystique, etc. Là où je crois qu'il est vraiment novateur vraiment novateur dans l'histoire de la philosophie et de la logique, c'est sur son insistance sur le fait que la logique est plus diverse qu'on croit, qu'il y a plus d'imagination il ne faut pas chercher à fonder une logique, mais en fait comprendre les règles du symbolisme. Et que pour chaque type de chose dont on veut parler, en fait, un symbolisme différent est peut-être nécessaire. Ce que, en fait, aucun penseur de la logique, il me semble, n'avait mis au centre de sa réflexion. En tout cas, pas Russell, pas Frege, et sans doute pas Aristote non plus, sur l'idée que, en fait, la logique est diverse. Il n'y a pas une logique, il y a des logiques selon ce qu'on cherche à dire.
Alors, on a déjà rentré en avant du texte lui-même. Avant de creuser cette dimension sur la réflexion, sur la logique en tant que telle, et même sur le langage, il faut se rappeler que l'ouvrage que Wittgenstein écrit est un ouvrage de philosophie, et que c'est d'ailleurs pour parler de la philosophie en tant que telle qu'il écrit ce livre, comme il le dit lui-même dans l'avant-propos que je vous propose d'écouter tout de suite.
Ce livre ne sera peut-être compris que par qui aura déjà pensé lui-même les pensées qui s'y trouvent exprimées, ou du moins des pensées semblables. Ce n'est donc point un ouvrage d'enseignement. Son but serait atteint s'il se trouvait quelqu'un qui, l'ayant lu et compris, en retirait du plaisir. Le livre traite des problèmes philosophiques et montre, à ce que je crois, que leur formulation repose sur une mauvaise compréhension de la logique de notre langue. On pourrait résumer en quelque sorte tout le sens du livre en ces termes. Tout ce qui proprement peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Le livre tracera donc une frontière à l'acte de penser, ou plutôt, non pas à l'acte de penser, mais à l'expression des pensées. Car pour tracer une frontière à l'acte de penser, nous devrions pouvoir penser les deux côtés de cette frontière. Nous devrions donc pouvoir penser ce qui ne se laisse pas penser. La frontière ne pourra donc être tracée que dans la langue, et ce qui est au-delà de cette frontière sera simplement dépourvu de sens.
The world is all that is the case. The world is the totality of facts, not of things. The world is determined by the facts and by their being. All the facts. All the facts. The world divides into facts. Each item can be the case or not the case, while everything else remains the same. The same. What is the case? fact is the existence of states of affairs. A state of affairs, a state of things is a combination of objects. Things, it's essential, the things that they should be possible.
Ce que nous sommes en train d'écouter en ce moment même, Jérôme Sacur et Sébastien Gondon, c'est Mauri Antero Numinem, un chanteur finlandais qui a mis en musique le Tractatus et qui chante proposition par proposition, le texte en anglais, on l'a pu l'entendre, là c'était la première chanson qui porte sur la première proposition, le monde est tout ce qui a lieu, the world is all that is the case, et cette mise en voix musicale est assez cohérente avec la problématique Wittgenstein hein, d'essayer de chercher l'expression juste, et ça on en parlera surtout demain dans les recherches philosophiques, mais la quête du sens et la quête de l'expression adéquate pour exprimer le monde qui est face à nous. On l'entend dès l'avant-propos donc du Tractatus qu'on a entendu juste avant, interprété par Jean-Louis Jacopin, où il écrit, Sébastien Gandon, je me tourne vers vous, si j'ose dire, puisque vous êtes à Clermont-Ferrand, où il écrit ceci, « Le livre traite des problèmes philosophiques et montre que leur formulation repose sur une mauvaise compréhension de la logique de notre langue. » Et c'est-à-dire que la raison pour laquelle Wittgenstein écrit ce livre, ce qui lui tient à cœur et qui fait qu'il va s'investir dans la rédaction de ce livre jusqu'à l'écrire alors qu'il est sur le front et qu'il essaye de dissiper ce qui serait en fait des malentendus, une mauvaise compréhension de la logique au sein de l'histoire de la philosophie, puisque ce serait cette mauvaise compréhension de la logique qui aurait donné lieu à des mauvaises compréhensions proprement philosophiques, et qu'en éclaircissant, en proposant des solutions logiques aux problèmes, de ce fait vont se dissiper également les problèmes qui paraissaient être philosophiques mais qui n'étaient que logiques.
Alors, moi j'entends deux choses dans votre question. Il y a la question du rapport de Wittgenstein à la logique dans l'histoire de la logique et dans l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire le rapport de Wittgenstein en fait à cette révolution qui a eu lieu avec Frege et Russell d'un renouvellement de la logique. Puis il y a une deuxième question qui est celui du statut des problèmes philosophiques. Et je pense qu'il faut distinguer un peu ces deux dimensions. Je vais parler d'abord un peu de la première, puis ensuite je dirai un mot de la seconde. Il est clair que Wittgenstein et que le Tractatus a une relation très, très, très organique avec l'œuvre de Frege et l'œuvre de Russell. La singularité du Tractatus, c'est aussi la singularité d'une époque où la logique se transforme. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la logique se transforme, c'est pas rien. Si vous vous référez par exemple à la seconde préface de la Critique de la raison pure de Kant, Kant dit que la logique est la seule science, la seule discipline à avoir été toujours ce qu'elle est depuis Aristote, à n'avoir jamais changé. Elle est au cœur de la rationalité, et donc modifier la logique, c'est modifier la rationalité, d'une certaine façon. Donc c'est ça qui est en jeu dans le rapport entre Wittgenstein, Frege et Russell. C'est-à-dire que le problème de modifier la logique, c'est que modifier la logique rend difficile même les rapports aux philosophies du passé. Puisqu'on touche quelque chose qui est au cœur de la rationalité, on modifie d'une certaine façon l'exercice et l'image qu'on a de la rationalité. Donc je pense que toutes les questions qui ont rapport à l'inexpressibilité, c'est aussi des questions qui ne peuvent pas se comprendre si on n'a pas ce contexte en tête. Donc ça, c'est le premier point. Mais
pardonnez-moi, Sébastien Gandon, juste sur ce point, ouais. C'est intéressant puisque vous avez l'air de sous-entendre que Wittgenstein cherche à modifier la logique. Or,
non.
Et ce n'est pas tant une modification de la logique qu'il essaye de mettre en œuvre qu'une application des règles de la logique au langage.
Le problème la question, c'est que avec Frege avant tout, mais aussi avec Russell, c'est que la logique a été modifiée. C'est-à-dire que il y a eu des raisonnements, des déductions qui étaient auparavant dans la logique aristotélicienne considérées comme des déductions qui n'étaient pas logiques, deviennent d'une certaine façon sont considérées comme logiques. Le statut, le plus simple pour le montrer, c'est le statut du synthétique a priori. Les règles mathématiques qui étaient considérées par Kant comme des règles qui n'étaient pas logiques, comme des propositions qui n'étaient pas logiques, qui faisaient appel à une intuition, sont d'une certaine façon reprises par la logique. Et donc le problème, c'est de mesurer ce changement-là. Comment, qu'est-ce que, si vous voulez, qu'est-ce qu'implique sur la philosophie une modification des règles logiques ? Donc Wittgenstein ne veut pas modifier la logique. Il hérite, et il hérite de façon un peu complexe d'ailleurs, de ce tremblement de terre qui est l'œuvre de Frege et de Russell.
Et donc sur le second point que vous évoquez, donc sur l'impact que cette extension finalement de la logique a sur la philosophie d'un point de vue proprement philosophique.
Alors moi je ne pense pas que, si vous voulez, Wittgenstein se dirait « bon, on a une avancée de la logique et on va pouvoir l'appliquer de façon extérieure à certains problèmes philosophiques ». Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il y a une prise au sérieux beaucoup plus grande des problèmes philosophiques et des problèmes métaphysiques chez Wittgenstein. Dans le texte que vous avez, qu'on a lu, Wittgenstein écrit « Le livre tracera donc une frontière à l'acte de pensée, ou plutôt non pas à l'acte de pensée, mais à l'expression des pensées, etc. etc. » Ce qui est important, je pense, c'est que, effectivement, pour Wittgenstein, à la fin, les problèmes philosophiques apparaissent comme des non-sens, hein, c'est-à-dire comme des choses qu'on ne peut pas penser. Mais ce qui est très important, c'est que ces non-sens, ils apparaissent pas comme tels au début. Le livre a pour objectif de tracer une frontière. Ça veut dire que ces non-sens, ils sont pas évidents. On ne les comprend pas quand on, pour Wittgenstein, quand on fait de la philosophie, on croit avoir affaire à du sens, et c'est tout à fait normal d'une certaine façon qu'on croit avoir affaire à des propositions sensées. Tout le problème, tout le travail va être de montrer, de dévoiler le non-sens qui se cache derrière d'une certaine façon. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est cette idée qu'il peut y avoir des non-sens non évidents. Ça, c'est quelque chose qui est très important, je pense, pour Wittgenstein. Et voilà, enfin, c'est montrer que quelque chose est un non-sens, c'est du travail.
C'est du travail, mais ça reste l'application de critères logiques à la philosophie, puisque le terme même de non-sens est issu du domaine de la logique. Jérôme Sacur, vous n'avez pas l'air d'accord.
Non, pas du tout. C'est cette idée d'application des règles de la logique au langage sur lequel vous revenez qui me semble totalement contraire avec l'essence même du Tractatus. Je suis totalement... Je pense que, effectivement, Wittgenstein a pris conscience, et celui qui a pris conscience sans doute beaucoup plus lucidement que Russell et Frege, des conséquences de ce que Russell et Frege avaient fait en renouvelant la logique dans sa charnière avec la philosophie. Il a pris conscience que, en fait, qu'est-ce que cherchaient à faire Frege et Russell, et Whitehead aussi, c'est construire une langue logique adéquate à la reconstruction de l'ensemble des mathématiques. Montrer qu'en fait, toutes les mathématiques peuvent s'exprimer dans une sorte de langue universelle qui permette de leur donner un cadre commun, etc. Et en fait, pris par cette espèce d'enthousiasme, Russell était quelqu'un de totalement passionné et enthousiaste, d'avoir réussi à faire ça. On peut dire quand même qu'en gros, ils ont réussi. Après, les mathématiciens ont repris le travail, ont remâché, ont simplifié, ils ont fait leur boulot correctement. Mais disons, Russell et Whitehead ont réussi à trouver une langue universelle qui permette de construire l'ensemble des mathématiques. Et en un sens, c'est fondamental, c'est quelque chose qui renouvelle aussi les mathématiques telles qu'on ne l'avait jamais fait depuis Euclide. Pas dans le contenu, mais dans la manière de les voir. Pris par cet enthousiasme, Russell a eu l'impression qu'en fait, ça lui donnait une sorte de rampe de lancement pour une reconstruction de l'ensemble de la philosophie. Qu'au fond, il avait la langue universelle de la raison et que tous les problèmes pourraient s'exprimer là-dedans. Wittgenstein prend du recul par rapport à ça et ce qu'il dit à Russell et Frege et Whitehead, c'est non, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez trouvé un mode d'expression particulièrement fort et adéquat à certains problèmes. Mais pour d'autres problèmes, ce mode d'expression-là n'est pas adéquat. Et d'ailleurs, en fait, même il critique ça sur la définition du nombre, qui est le problème principal de Russell. Donc ça retourne, l'éloge se transforme en critique aussi. Donc en fait, ce que recherche à expliquer Wittgenstein, c'est que la logique n'est pas ce qu'on croit. Ce que vous avez fait, Russell et Frege, montre que la logique n'est pas ce qu'on croit, n'est pas une sorte de cadre universel, un canon, mais une clarification de nos modes d'expression. Et donc, on n'a pas à appliquer les règles de la logique à quelque chose. Il faut à chaque fois trouver le bon mode d'expression. Et trouver le bon mode d'expression, c'est trouver le bon symbolisme. Donc, c'est trouver la bonne logique. Donc, il y a une logique. Quand il parle de la logique de notre langue, il ne faut pas croire que ça corresponde à une sorte de langue universelle sous-jacente qu'il suffirait de dégager pour pouvoir tout exprimer correctement. Ce n'est pas du tout ça. C'est ce qu'il veut dire, c'est dans nos expressions, il y a des règles. Et il faut prendre conscience de ces règles. Et pour ça, la clarification dans le style de ce qu'ont fait Russell et Frege est fondamentale. Mais ce n'est pas une application universelle qui sorte de moule dans lequel tout devrait se couler. Et en ce sens-là, il est révolutionnaire, non pas parce qu'il a porté à son un achèvement ou à comble le travail de Russell ou Frege, mais parce qu'en fait, il prend du recul par rapport et il dit « Prenez conscience de ce que vous avez fait. Vous n'avez pas fait ce que vous avez cru faire. »
What would happen if I reached out
for you?
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h et bientôt 31 minutes. Nous parlons de Wittgenstein toute cette semaine et aujourd'hui du Tractatus Logico-Philosophicus avec Sébastien Gondon, auteur de Logique et langage, étude sur le premier Wittgenstein paru chez Vrin. Sébastien Gondon qui est en duplex avec nous depuis Clermont-Ferrand. Et avec nous en studio Jérôme Sacure, auteur lui de Formes et faits, analyse et théorie de la connaissance dans l'atomisme logique, paru également aux éditions Vrin. Jérôme Sacure, rentrons dans le corps du texte, puisque maintenant nous avons clarifié les rapports entre la logique et le langage et la façon dont Wittgenstein modifie cette histoire finalement de la logique dont il hérite, ou au contraire montre en quel sens elle peut être modifiée, donc peut-être qu'elle a une dimension historique et pas seulement atemporelle, puisque purement rationnelle. Si on ouvre le Tractatus après l'avant-propos dans la première page, nous avons une série de propositions, dont la première est celle-ci: le monde est tout ce qui a lieu. C'est la première des, on peut dire, proposition mère que Wittgenstein va énoncer au sein de ce texte. Il y en a 7. Ensuite, il dira que ce qui a lieu, le fait, est aussi la subsistance d'état de choses, que l'image logique des faits est la pensée, pour finalement la dernière des propositions, la 7e, avec laquelle s'achève le livre, et celle-ci: sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Nous avons dit 2 mots, c'est donc une façon de délimiter de manière négative le domaine de l'éthique dont on ne peut pas parler, que l'on peut seulement montrer. Mais puisque le livre s'ouvre avec cette proposition qui concerne le monde, c'est donc là qu'on est d'emblée dans une référence à un ailleurs. Et je dis cela en connaissance de cause, c'est-à-dire, je sais très bien, la notion même de monde est problématique chez Wittgenstein, puisque lorsqu'on réfléchit au langage, on s'interroge à la façon dont un homme peut essayer d'exprimer ce qu'il voit, ce qu'il a devant lui. Il y a donc toute réflexion sur le langage engendre une réflexion sur le rapport de l'homme au monde. Lorsque Wittgenstein écrit « Le monde est tout ce qui a lieu », qu'est-ce que ça veut dire? Il y a cette notion de totalité, mais en même temps cette notion de « avoir lieu ». Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, puisque c'est fondamental pour ensuite comprendre sa réflexion sur le langage? Jérôme Sacure.
Je pense que ce qui est important ici, c'est la notion de fait. Donc tout ce qui a lieu, c'est tout ce qui est un fait, un événement. Et c'est précisé ensuite dans la proposition 1.1, qui commente, puisque la hiérarchie des propositions est telle que l'ordre indique quelle proposition est un commentaire de quelle autre proposition. Donc la proposition 1.1 qui nous dit « Le monde est la totalité des faits, non des choses ». Donc je pense que le point vraiment important pour Wittgenstein, et d'ailleurs aussi pour Russell en l'occurrence, c'est que la philosophie doit traiter des faits, non des choses, en premier lieu.
Alors comment distingue-t-on les faits des choses?
Alors, juste, ça paraît d'une banalité un petit peu effrayante. Et on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'intelligent, de philosophiquement pertinent à partir de ça. Je pense qu'il y a une chose quand même qui est importante de voir, c'est que il y a une opposition ici à une forme de conception philosophique qu'on pourrait dire empiriste. Traiter des choses, ça veut dire que les relations entre les choses vont être construites ou découvertes par le sujet connaissant. L'idée de Wittgenstein, c'est que ce n'est pas le cas. Les faits contiennent déjà la mise en relation de choses. Donc il y a une attitude anti-empiriste qui est assez forte dès les premières propositions. Et c'est ça qui est important pour le Tractatus, c'est qu'une fois qu'on a compris que le monde est déjà une mise en relation de choses, eh bien il faut trouver, pour essayer de comprendre nos modes d'expression, essayer de trouver comment refléter ces relations de manière appropriée. L'autre opposition qui est intéressante, c'est que néanmoins, même s'il est anti-empiriste en cela, il y a une opposition à l'idéalisme en un certain sens. Un idéalisme, pas rien de très, très précis et détaillé, mais l'idée quand même est qu'il y a une indépendance de ma connaissance du monde et du monde lui-même. Les faits sont ce qu'ils sont indépendamment, que je les pense ou pas. Les relations entre les choses sont ce qu'elles sont indépendamment de ce que je les connaisse ou pas. Donc cette ouverture, en fait, est en un sens assez triviale, mais en un autre sens, elle pose déjà une opposition très claire et elle indique que la découverte des relations entre les choses va être le guide qui nous permettra de comprendre quel mode d'expression nous devons avoir. Pour répondre à votre deuxième question, si je serai très bref et je repasse la parole, c'est quelle est la différence entre les faits et les choses ? Là, je crois que ce qui est très important, et le problème du Tractatus, c'est souvent qu'il cache ses références. Mais il y a une théorie chez Frege, qui a été reprise ensuite par Russell, qui est sous-jacente, qui est qu'on ne peut pas nommer les faits. On peut nommer les choses, mais on ne peut pas nommer les faits. On peut décrire les faits et on peut nommer les choses. Et c'est dans cette opposition de deux modes de relations sémantiques, en un certain sens, c'est-à-dire que nos expressions se rapportent au monde de deux manières différentes, plutôt contiennent des noms qui se rapportent aux choses en les nommant et expriment les relations que les faits qui constituent les faits, cette dualité de notre rapport au monde est en fait la base de ce qui permet ensuite à Wittgenstein de déployer tous les modes d'expression dont il veut parler dans le Tractatus.
C'est-à-dire que cette distinction entre choses et faits est celle qu'il y a entre le fait de nommer et entre le fait de décrire, puisque les faits impliquent déjà une structure, si j'ai bien compris, une relation entre les choses. Les faits désignent les relations qui unissent les choses entre elles.
Voilà. Et il y a quelque chose d'assez nouveau aussi, je crois, je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, dans le Tractatus, qui est que il y a un entrelacement entre la réflexion langagière, pas linguistique, mais sur le mode d'expression, et l'ontologie. C'est-à-dire qu'on ne peut faire d'ontologie qu'en passant par le langage et réciproquement. Et ça, c'est quelque chose qui est très lucide chez Wittgenstein et qui était obscur chez, sans doute, Russell. Et donc, ce qu'il cherche à nous montrer, c'est que notre ontologie est factuelle. C'est ce qu'on appelle l'atomisme logique, l'idée que le monde est constitué des faits. Eh bien, en fait, on ne peut vraiment la clarifier, l'élucider, qu'à travers une réflexion logique sur la manière dont les relations entre les choses peuvent être exprimées.
Ce qui signifie, Sébastien Grandon, que le langage va épouser l'ontologie en tant que telle, que le langage révèle la structure du monde et donc de ce qu'on peut nommer l'ontologie, de l'être du monde. Le langage, en ce sens, n'a pas qu'une fonction descriptive ou communicative, mais elle a une fonction proprement philosophique, voire ontologique.
Oui, alors, d'abord, je suis tout à fait d'accord là, avec la remarque de Jérôme. Sur l'importance du langage et de la réflexion sur le langage dans la réflexion ontologique de Wittgenstein, que c'est un tournant par rapport à la fois à Frege et Russell. Et ça, je pense que c'est cette idée qui me permet de répondre à votre question. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, il y a un problème d'interprétation dans le Tractatus, parce que dans cette ouverture du Tractatus, on a l'impression d'avoir affaire à un ailleurs, comme vous l'avez dit, à un monde qui est donné, et puis qui est donné indépendamment finalement du langage, on a l'impression. Et donc, il y a des interprètes qui sont réalistes, qui disent, ben non, le monde vient premier, et puis le langage reflète, épouse, comme vous l'avez dit, ensuite les structures qui sont données ontologiquement. Et puis, il y a une autre interprétation qui est plutôt idéaliste, c'est-à-dire, ou symboliste, on va dire, c'est-à-dire que le langage nous est donné, et d'une certaine façon, c'est les structures linguistiques qui se projettent dans le monde, et que donc il y aurait une lecture à rebours de cette ouverture, c'est-à-dire, oui, il y a une ouverture qui paraît métaphysique, mais en fait, elle est complètement indexée sur la théorie de l'image et sur les formes symboliques. C'est ces formes symboliques que nous projetterions sur le monde. Donc je pense qu'en fait, si vous voulez, ce qui me semble, c'est que la solution de ce problème, il est précisément dans l'intervention du langage au niveau de l'ontologie. C'est-à-dire que les deux ont tort ou les deux ont raison. Il n'y a pas d'ontologie possible dans Tractatus sans une théorie de l'image, et il n'y a pas de théorie de l'image dans Tractatus, c'est-à-dire de théorie de la proposition, sans ontologie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien très très fort, et qui n'est pas là chez Frege et qui n'est pas là chez Russell, entre une réflexion sur le monde et une réflexion sur la représentation du monde.
Et pourtant, cette distinction est maintenue au sein du Tractatus. Hein, si je me réfère à la proposition 5.6, où il écrit « Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde ». Et juste ensuite, 5.61, la logique remplit le monde. Les frontières du monde sont aussi ses frontières. On a l'impression que d'un côté, il y a l'affirmation de l'existence d'un monde en dehors de nous, qui est le monde de la logique en tant que tel, et de l'autre, la nécessité de ne pouvoir parler que de son monde, puisque c'est la personne qui parle, qui exprime son propre monde à travers le langage. On a l'impression qu'il maintient d'un côté le monde comme objet extérieur et de l'autre le monde comme étant la totalité de ma pensée.
Ouais. Ben écoutez, je suis bien embêté pour... Effectivement, il y a cette dualité. Donc, est-ce que pour Wittgenstein, on peut parler d'un langage qui ne serait pas le mien ? Est-ce qu'on pourrait parler ? Est-ce que ça a un sens de parler du monde, d'un monde qui ne serait pas le mien ? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'effectivement, cette proposition a l'air de laisser ouverte la possibilité qu'il y ait un monde qui ne soit pas mien.
Mais s'il y avait un monde si on peut postuler l'existence d'un monde qui n'est pas le mien, Wittgenstein dirait sans doute que de toute façon, de ce monde-là, on ne peut rien en dire puisqu'il échappe à mon langage.
Oui, mais c'est quand même embêtant parce que c'est toujours le problème du statut de ce qui est inexpressible ou de ce qui est ineffable dans le Tractatus. Ça, c'est il y a des désaccords dans l'interprétation là-dessus parce que même admettre qu'il y a quelque chose qui échappe au langage est quelque chose qui est contesté par certains commentateurs, et je pense avec raison. Donc voilà, c'est une solution qui est... Bon, il y a toute une discussion aussi qui est à l'horizon de 5.6 et de 5.6.1, mais il faudrait voir les choses de manière très plus détaillée. Il y a toute une discussion concernant le solipsisme avec Russell, qui est, à mon avis, derrière ces paragraphes. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus, là, quoi.
Jérôme Sacure, sur cette dualité possible entre un monde extérieur et un monde qui ne serait que mien, la question est importante, puisqu'elle, en fait, derrière cette question-là, se trouve toute la conception que Wittgenstein se fait du langage, savoir si le langage à valeur peut désigner un en dehors de moi, c'est-à-dire quelque chose qui se situe hors de mes pensées, dont l'existence ne dépend pas de moi, ou si, au contraire, le langage est non seulement tributaire de mes conditions de pensée, de la logique, mais qui ne peut qu'exprimer ce que je vois en tant que sujet.
Oui, je suis à peu près aussi embarrassé que Sébastien. Une des choses qui me semble importante, c'est de voir quand même que le Tractatus n'est pas forcément aussi systématique qu'il prétend l'être et voudrait se présenter. Il y a des tensions entre le travail concret, très précis et extrêmement argumenté de Wittgenstein dans le Tractatus sur les modes d'expression. Et puis, une certaine impulsion romantique qui s'exprime justement dans les parties comme 5-6, je suis mon monde, ce genre de choses-là, 5-6-3. Bon. Et je ne suis pas absolument certain qu'on puisse complètement réconcilier réconcilier tout ça. Et je pense que l'une des insatisfactions de Wittgenstein, qu'il a ensuite essayé de résoudre dans son travail ultérieur après 1929, c'est justement d'arrêter de... proposer comme ça des choses qui sont pas conciliables et d'essayer de faire un travail beaucoup plus pas précis, mais surtout pas à pas. Et dans le Tractatus, il y a vraiment, c'est l'extrême inverse. Donc, je suis pas certain qu'on puisse absolument tout concevoir d'une manière une et complètement cohérente dans le Tractatus. On a vu, il y a des impulsions différentes, une tradition différente. Il y a une part énorme qui vient de Russell et Frege qui est sur la logique, mais il y a aussi toute cette philosophie romantique, schopenhauerienne, etc., qui ont pas forcément, qui sont pas forcément bien ajointées. Maintenant, plus précisément, il y a un point important aussi, quand même, c'est cette notion d'opposition entre ce qui se dit et ce qui se montre. Et je pense que c'est une opposition un peu technique, philosophiquement, qui a son efficacité et qui est importante si on veut comprendre le rapport entre le langage et l'ontologie. Il y a ce que je dis, c'est je ne peux parler que des faits, je ne peux que donner. C'est le point de départ. Donc, il y a des choses effectivement que je ne peux pas, qui ne peuvent pas se dire, mais néanmoins elles se montrent. Et la manière dont elle se montre peut être parfaitement rationnelle. Donc, lorsque je parle du monde, je ne peux pas parler de son en dehors, mais je montre quelque chose sur comment il se constitue dans son rapport au langage. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait d'un côté ce qui se dit et une sorte d'indicible mystérieux, une sorte de frontière de notre univers, comment penser au-delà de la frontière. Il y a ce que je dis et il y a aussi ce que je montre en le disant. Et ce que je montre en le disant, c'est que c'est la constitution même du monde. C'est justement le fait que le monde est un ensemble de faits et les faits sont constitués de mise en relation d'objets. Et ça, je le montre, c'est important. Bien que je ne puisse pas, contrairement à ce que croyaient certains logiciens trop rationalistes, je ne puisse pas déployer complètement, déplier exactement les conditions de mon discours.
C'est-à-dire que le Tractatus lui-même, tout en voulant déployer quand même les conditions logiques du discours, pointerait, alors de manière plutôt sous-jacente ou indirecte, ce dont précisément il ne peut rendre compte puisque cela échappe au langage. C'est-à-dire que en disant, Wittgenstein montre. Les deux ne sont pas deux choses séparées. L'un implique l'autre nécessairement.
Absolument. Pour prendre un exemple technique très simple, si je dis par exemple, j'exprime une relation. Si je dis Socrate est plus grand que Platon, physiquement. Donc j'ai deux objets, on va y supposer que ce sont des objets au sens logique du terme, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on n'en sait rien. Mais disons qu'on prend la forme de l'expression, de la proposition Socrate est plus grand que Platon, c'est une mise en relation de deux objets. En fait, voilà, ce que je peux dire, je décris un fait. C'est un fait que Socrate est plus grand que Platon. Ça, c'est ce que je dis. Mais en même temps, ce que je montre, qui est essentiel, c'est que je ne peux pas dire ça sans utiliser deux objets et une relation. Et contrairement à ce que pensait Russell, je ne peux pas dire que être plus grand qu'eux est une relation. Mais ça se montre. Et c'est essentiel, parce que ça nous fait comprendre que exprimer certains faits requiert d'avoir certains types de relations. Et donc, en fait, l'ensemble des structures logiques dont j'ai besoin pour dire le monde, pour dire les faits, se montre dans l'expression correcte. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que ça n'a rien d'irrationnel. C'est ineffable, en un sens qu'être plus grand qu'eux est une relation, est effectivement ineffable. C'est aussi ineffable que la logique, le mystique, l'éthique, mais c'est un ineffable qui est parfaitement rationnel, parce qu'il n'a pas de sens, parce qu'être une relation n'est pas une sorte de concept que je puisse appliquer directement à être plus grand qu'eux, comme si c'était un objet. Mais être plus grand qu'eux est une relation dans sa mise en relation entre deux objets, et je ne peux pas le dire mieux que dans l'action de le dire.
Mes propositions sont des éclaircissements en ceci que celui qui me comprend les reconnaît à la fin comme dépourvues de sens, lorsque par leurs moyens, en passant sur elles, il les a surmontées. Il doit, pour ainsi dire, jeter l'échelle après y être monté. Il lui faut dépasser ses propositions pour voir correctement le monde.
Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence.
The general form of a truth function is square bracket P stroke C stroke N bracket C stroke bracket square bracket. Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist eckige Klammer B Strich C Strich N runde Klammer C Strich runde Klammer eckige Klammer. Sätze der Logik sind Tautologien. Die Sätze der Logik sagen also nichts. The propositions of logical tautologies. Therefore, the propositions of logic say nothing.
Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. C'était donc la dernière proposition du Tractatus de Wittgenstein, chantée par le chanteur suédois Mauri Antero Numinen. Il a chanté comme ça toutes les propositions du Tractatus. Vous trouverez les références en ligne sur le site internet. Merci beaucoup Sébastien Gondon et Jérôme Sacure d'avoir participé à cette émission aujourd'hui et nous avoir éclairé un tant soit peu sur le Tractatus Logico-Philosophicus. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette émission. Nous parlerons des recherches philosophiques. Il est 10h50, c'est l'heure du journal de la philosophie. Avec vous, François Nodelman, bonjour.
Bonjour Adèle. La théologie médiévale n'est pas qu'une affaire de religion. Elle intéresse au premier chef la philosophie. Maître Eckhart, ce théologien du XIVe siècle, ne cesse d'attirer des commentaires. Et la parution du livre de Kurt Flasch, Maître Eckhart, philosophe du christianisme, nous permet d'y revenir. C'est publié chez Vrin. Rudy Imbach, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de Paris-Sorbonne. Vous êtes aussi directeur de collection chez Vrin. Alors, paraît ce livre un peu grâce à vous, parce que vous êtes aussi un peu à l'origine de cette écriture, de Kurt Flasch, qui est un de vos collègues, un professeur émérite de l'Université de Bochum. On pourrait d'abord peut-être rappeler, avant d'entrer dans le détail des thèses, qui est Maître Eckhart.
Oui, Maître Eckhart est un dominicain qui probablement est né autour de 1260 et il est mort vers 1327. Alors Maître Eckhart était d'abord un professeur de théologie, il était deux fois professeur ici à l'Université de Paris, ce qui était très très rare. Il est revenu une deuxième fois après avoir enseigné en 1302, une première fois ensuite en 1311. Donc professeur de théologie, mais également grand prédicateur, et c'est surtout ses sermons allemands qui sont connus, qu'il a tenus tout au long de sa carrière, à Cologne, à Strasbourg. Ensuite, il est d'abord, je dirais, un très grand philosophe.
Oui, philosophe, alors justement, philosophe, théologien, comment faire la répartition? Là, ce livre s'appelle « Philosophie du christianisme ». Voilà, quels sont les registres et qu'est-ce qui permet de dire, effectivement, ces sermons intéressent au premier chef la philosophie?
Maître Eckhart est un des auteurs qui se sont directement exprimés sur leur programme. Il y a plusieurs textes très programmatiques de Maître Eckhart. Et notamment, un texte qui est très important pour Kurt Flasch et qui est en quelque sorte même le fondement de son livre, est l'introduction à son commentaire de l'Évangile de Jean. Et dans ce texte, il explique que dans toutes ses œuvres, son intention était d'expliquer la foi chrétienne et le contenu des évangiles par les raisons des philosophes. C'est-à-dire, cela explique le titre du livre « Philosophe du christianisme », c'est pas « philosophe chrétien », n'est-ce pas ? La philosophie chrétienne serait une philosophie, au fond, qui s'adapte à la foi. Son projet est tout à fait différent. Il veut interpréter la foi et le contenu de la foi chrétienne par la philosophie.
On range Maître Eckhart parmi les mystiques rhénans. Alors là aussi, il faudrait un petit peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est que cette mystique rhénane, ces auteurs?
Oui, on entend par là un mouvement, j'allais dire intellectuel, mais surtout spirituel, qui au fond commence avec Albert le Grand, qui est aussi le maître de Thomas d'Aquin, et dont Eckhart est évidemment le représentant le plus connu, mais il a eu des disciples, Henri Suzeau, Jean Tolère, et récemment, depuis une vingtaine d'années, nous avons commencé à situer cette mystique rhénane à l'intérieur de toute une école philosophique allemande. Dietrich de Freiberg, par exemple, qui certainement n'était pas seulement le collègue de Maître Eckhart, mais en quelque sorte l'a aussi inspiré, fait partie de cet ensemble.
Le contexte aussi historique, c'est celui d'une certaine corruption de l'Église, de guerre aussi à l'intérieur de l'Empire, mais aussi d'un essor intellectuel. C'est-à-dire que malgré les censures, il y a, note-t-il, un grand appétit des savants chrétiens pour l'Antiquité. Souvent, on a tendance à dire, oui, ça arrive à la Renaissance, mais en fait, on s'aperçoit que déjà au XIVe siècle, bon, il y a effectivement toute une série de recherches sur les philosophes antiques. Et donc, comment Maître Eckhart s'inscrit-il dans ce contexte en tant que mystique rhénan? Qu'apporte-t-il de singulier à l'égard des dogmes, à l'égard de la religion, puisque effectivement, il a, comme vous le rappelez, il a été quand même condamné juste après sa mort.
Alors, peut-être d'abord un petit mot sur mystique. Pourquoi on dit que Maître Eckhart est un mystique? Alors, moi, j'expliquerai cela en disant simplement parce que tout son effort de prédication et de philosophie était au fond de montrer l'unité de l'homme et de Dieu. Une unité qui existe déjà. Et il a voulu réinterpréter, je dirais, toute la doctrine de l'incarnation dans ce sens-là, en disant « tout homme est fils de Dieu ». Et l'incarnation n'est pas un événement qui a eu lieu seulement historiquement une fois, mais il se réalise continuellement en chaque homme.
Oui, d'où le fait qu'on a pu lui reprocher une forme de panthéisme.
Tout à fait. Oui. Tout à fait.
Parmi les thèses aussi très importantes qui sont discutées par les philosophes et qui inspirent les philosophes aujourd'hui, il y a aussi le rôle de l'image, de la métaphore comme mode de connaissance. Toutes ces réflexions sur l'analogie, sur à propos de la ressemblance notamment de Dieu et du monde, bien sûr. Mais alors en même temps, on se souvient que la théologie négative nous apprend justement qu'il faut sans arrêt se méfier des définitions ou des images, aussi bien des noms que des images. Et il y a notamment cette thèse aussi de la désimagination. Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on pourrait essayer en peu de temps de dire un petit peu quel est l'enjeu, parce qu'il intéresse aussi la philosophie contemporaine?
Je crois qu'il faudrait distinguer deux choses. D'abord, effectivement, Maître Eckhart s'intéresse directement à ce qu'on appelle la théologie négative, n'est-ce pas? Il dit continuellement que lorsque tu penses que tu as compris ce qu'est Dieu, tu n'as rien compris. Et il dirait avec Denis l'Aréopagite que ce que nous nions de Dieu est plus vrai que ce que nous affirmons. Ça, c'est un premier point. Et à cela est effectivement lié le fait qu'il faut dépasser notre manière de concevoir et notre manière aussi de forger des images. Mais il y a chez Maître Eckhart une toute autre dimension de la doctrine de l'image qui est une réinterprétation de cette parole biblique que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et c'est là qu'il développe cette doctrine qui a également été condamnée par le pape Jean XXII, qu'il y a une unité radicale entre l'image et ce dont il est image. L'homme est image de Dieu, selon lui, par l'intellect.
Dernier point, il y avait un enseignement donc aussi bien à l'université qu'en chair. Donc, en quoi c'est important pour lui, pour Maître Eckhart, d'enseigner aussi, je dirais, à l'homme ordinaire?
N'est-ce pas? Il est très important de rappeler que Maître Eckhart est, comme Dante pour l'italien et Raymond Lull pour le catalan, est un de ceux qui ont, en quelque sorte, pas créé la langue allemande, mais en tout cas, ont contribué à son développement. Alors, il est de l'avis qu'il faut enseigner à tous les auditeurs de ses sermons ce qu'il enseigne également à l'université. Et il a voulu répandre l'enseignement philosophique et théologique de l'université à tous les laïcs.
Merci beaucoup, Rudi Imbach. Je rappelle le livre que vous êtes venu commenter, Kurt Flash. Donc, c'est Maître Eckhart, philosophe du christianisme, paru chez Vrin. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie sur franceculture.fr.
Merci François. Ainsi s'achève le nouveau chemin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine consacrée à Wittgenstein. Demain, je recevrai Vincent Descombes qui viendra vous parler des recherches philosophiques de Wittgenstein. Si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet des Nouveaux Chemins, sur le site franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins, où vous trouverez également toutes les indications bibliographiques concernant l'émission du jour et vous pourrez télécharger, podcaster cette émission.